Alors, précision, Nathalie.
Oui, précision, effectivement. Sur l'utilisation du recours à la clause dérogatoire, écoute, c'est pire que je pensais. L'Assemblée nationale a utilisé 41 reprises, en fait, cette fameuse clause dérogatoire. C'est quand même pas rien, là, depuis le début des années 80. Alors, précision, effectivement. Mais il y a des lois qui ont recours à la clause dérogatoire, qui marquent l'imaginaire, qui créent une espèce de, comment dire, qui interpelle la société. C'est pour ça que j'ai référé à la loi de 1988 du gouvernement libéral à ce moment-là de Robert Bourassa sur l'affichage en anglais versus en français et cette loi dont on discute aujourd'hui. Alors, mais la précision est importante.
Ouais.
Merci aux auditeurs qui nous ont partagé cette information.
Alors, le verdict hier est tombé, pas mal vite à part ça, même pas une journée de délibération complète, et Derek Chauvin, l'ex-policier, coupable de 3 accusations de meurtre, ce qui a donc entraîné tout de suite son emprisonnement, sentence dans, on pense, autour de 2 mois. Et on a vu les réactions depuis hier. Et puis là, évidemment, la question qui revient, est-ce que vraiment c'est un changement historique, c'est un verdict majeur? Puis est-ce que ça va changer les choses? On écoutait le président Biden qui pense que oui. On peut comprendre aussi que d'autres sont un peu plus sceptiques. Luc?
Je regardais la foule devant la cour et puis les voyant pleurer de joie. Tu sais, tu dis, j'espère que ça va changer. Hein. Tu sais, c'est comme, pas juste ceux qui pleuraient, là, tout le monde était... C'est la première fois qu'un blanc est reconnu coupable de meurtre, un policier blanc reconnu coupable de meurtre dans l'exercice de ses fonctions. Et ce qui est important aussi, c'est que c'était une cause parfaite, tu sais. L'arrestation se passait relativement bien jusqu'à temps que Derek Chauvin arrive puis qu'il mette son genou. Il l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises dans le passé. C'est un policier qui était reconnu pour un usage excessif de la violence. Et là, il a mis son genou sur la gorge de George Floyd alors que celui-ci était en détresse, alors qu'il l'implorait d'arrêter, alors que la foule implorait d'arrêter, alors qu'il n'y avait pas de violence. Il n'était pas attaqué de toutes parts par des gens qui auraient tenté de libérer George Floyd. Il n'était pas armé. C'est un meurtre, tu sais, clair et précis. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le procureur en disant « Ce que vous avez vu sur la vidéo, c'est ce qui s'est produit, c'est un meurtre. » Mais est-ce qu'il va en avoir d'autres? Parce que dans bien des cas, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, les arrestations, tu sais. Et moi, je pense que non. Je pense que ce n'est pas un tournant dans l'histoire pour plusieurs raisons. Il va y avoir une diminution des abus à cause des caméras vidéo qui sont maintenant partout. Quel que soit le geste que tu fais maintenant, il y a une caméra qui va te filmer. Si ce n'est pas les personnes qui t'entourent, c'est les caméras de surveillance, etc. Donc, les caméras vidéo vont changer beaucoup l'affaire et surtout que les policiers vont en porter de plus en plus sur eux. Et la deuxième chose, c'est la sensibilisation de la population. Donc, à chaque fois qu'il y a un décès, on se dit, est-ce que c'est un meurtre? Et quand c'est un meurtre, ben là, la population manifeste violemment. Alors, les polices des États-Unis, en règle générale, vont tout faire pour plus qu'il y ait d'arrestations aussi violentes que ça. Mais, en contrepartie, il y en a 1000 par année. 1000. Savez-vous combien il y en a dans le reste du monde? Au Japon, il y en a 2. En Angleterre, il y en a 3. En Allemagne, il y en a 11. Le deuxième pays occidental qui en a le plus après les États-Unis, là, c'est nous, avec 36. Pardon. Et si on était sur on avait le même poids que les Américains en termes de population, on serait autour de 400, tu sais. Donc, quasiment la moitié des États-Unis. Donc, c'est un problème nord-américain, mais particulièrement américain. Et c'est une culture très, 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 très profonde, puis on va revenir là-dessus.
Nathalie?
Bien, tout d'abord, les réactions en chaîne hein, des différents chefs de gouvernement dans le monde, mais en particulier celle du président américain qui a admis avoir prié pour que le verdict soit le bon verdict. Il a déclaré que ça pourrait être un pas vers la justice en Amérique, une nouvelle justice en Amérique. Mais Kamala Harris, elle, évidemment première vice-présidente noire, était un petit peu moins, comment dire, était, je dirais pas peut-être un peu moins optimiste, mais plus réaliste. Elle a dit... C'est un verdict qui ne guérira pas la douleur qui existait depuis des générations et n'effacera pas les traumatismes de racisme systémique. Il faut se rappeler, hein, 9 minutes 26 secondes. Ça, c'est hein, 9 minutes 26 secondes, c'est le temps interminable qui malheureusement a conduit au décès de George Floyd. J'entendais ce matin à ton micro, Paul, entre autres, Aline Estar et le monsieur là, de Minneapolis,
ouais.
Qui, eux, voient dans cette décision, dans ce verdict historique, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié, qui voient énormément d'espoir, qui qui pensent, qui souhaitent que les choses changent. Mais derrière ce verdict, où on peut dire effectivement justice enfin a été rendue, il y a tout l'enjeu des inégalités économiques qui séparent les Blancs des Noirs. Quelques données là pour vous illustrer. Justement, à Minneapolis, ville de plus de 420 000 personnes, le taux de chômage est 3 fois plus important chez les Noirs que chez les Blancs. Le taux de propriétaire, hein, avoir accès à sa propriété, est 3 fois plus élevé chez les Blancs que chez les Noirs. Entre 2000 et 2018, les Noirs représentaient 60 % des personnes qui ont été tuées par la police du côté des États-Unis. Alors, il y a des toutes les statistiques vont dans le sens d'une ostracisation, d'une stigmatisation de cette communauté qui paie trop cher le prix par rapport au poids politique ou au poids, c'est-à-dire démographique, qu'elle représente aux États-Unis. Et moi, Paul, j'espère que les choses vont changer. Mais je me suis rappelé tes paroles que tu as dites il y a quelques semaines. Tu as cité le président Obama après la tuerie au Connecticut, là, des jeunes, de plus de 20 enfants qui ont été tués. Et à ce moment-là, c'était la commotion partout aux États-Unis, partout dans le monde. On se disait, ben oui, c'est l'événement qui va nous permettre de changer les choses. Et pourtant, il y a toujours encore des tueries de masse aux États-Unis. C'est devenu un fléau, ça nous dépasse. Alors, c'est la même chose lorsque je trouve qu'il y a une comparaison à faire entre les deux. Donc, c'est un jugement qui suscite énormément d'espoir. Mais oui, les services policiers doivent changer. Il y a une culture qui doit évidemment changer. Mais en même temps, il y a toutes ces inégalités qui persistent et qui contribuent à créer cette tension entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis.
Ben, totalement, mais moi, je suis moins optimiste que toi en pensant que s'il y avait moins de racisme aux États-Unis, il y aurait moins de meurtres parce que, oui, il y a du racisme. La population noire représente 13,4 % de la population aux États-Unis et 25 % des décès exact. Lors d'arrestation. Okay? Ouais. Mais sur 1000, ça veut dire que si... Puis après ça, tu as les hispanophones. Ils représentent 17,9 % de la population puis c'est 200 décès lors des arrestations. Mais... Pardon?
Non, vas-y. Donc,
mais si il représentait exactement le même poids en termes de décès que dans le poids dans la démographie, il y aurait peut-être une centaine de meurtres de moins, une centaine de décès de moins lors d'arrestations. Donc, au lieu d'être à 1000, on sera à 900. C'est pas ça qui va changer. Puis l'autre affaire...
Non, mais hier, j'entendais un procureur dire que faut que les gens se mettent en tête, là, au-delà du comportement des personnes, c'est la circulation des armes.
300 millions d'armes.
Non, mais parce que quand tu es un policier aux États-Unis, tu es à peu près convaincu qu'à chaque fois que tu vas intercepter quelqu'un, il est potentiellement armé.
Mais il y a 50 policiers qui meurent.
Que tu ne trouves pas ailleurs. Là.
Il y a 50 policiers qui meurent par balle. Il y a 1000 policiers qui meurent, mais il y a 50 policiers qui meurent par balle par année. Et donc, oui, il y a une violence énorme partout dans toute la population. Puis moi, j'aimerais revenir sur les bases de la culture américaine qui crée la violence. L'over-policing, là. Excusez-moi s'il y a un auditeur qui connaît le terme en français, je l'apprécierais, mais la surpolicisation de tout, là, l'attitude policière en toute chose. Rappelez-vous la mort de M. Steph Blake, son nom en août passé, 3 enfants dans la voiture, il ne veut pas s'identifier, il reçoit 3 balles, ça c'est de l'over-policing. Tu vas m'écouter, parce que si tu ne m'écoutes pas, ça va aller mal pour toi. Ça c'est de l'over-policing. Et ça, l'over-policing, est-ce que c'est juste la toxicité des policiers? C'est aussi la population américaine qui appelle la police pour un oui ou pour un non en tout temps, qui se sent constamment menacée. C'est aussi des peines de prison ou des contraventions énormes, ce qui fait que les gens veulent se sauver pour pas les avoir. Lorsqu'ils se sentent qu'ils vont être arrêtés, ils veulent se sauver.
Oui,
parce que
oui.
Si jamais ils sont pris parce qu'ils ont fait, par exemple, un vol dans un dépanneur puis ils se font pogner une deuxième fois, ils vont avoir 12 ans. Alors oui, ils essayent de se sauver. Donc ça aussi, ça fait partie de la culture. La culture américaine, c'est pas juste le policier qui met son genou sur la gorge d'une personne.
Non.
C'est un ensemble de choses à changer.
Et c'est la méfiance qui existe aussi entre la communauté blanche, la communauté noire, entre la police, je devrais dire ça comme ça, je vais être plus spécifique, entre la police et la communauté noire. Mais c'est aussi, c'est Kamala Harris qui l'a bien dit, elle dit, les noirs, en fait, les hommes noirs, elle dit, les noirs ne sont pas considérés comme des hommes aux États-Unis. C'est une phrase, je pense, qui traduit très, très bien ces décennies, effectivement, de racisme, de discrimination,
Décrochage scolaire, puis de sous-investissement dans les écoles,
oui,
puis de sous-investissement dans la santé.
Oui, exactement. Le mal est très profond.
Ben oui. Et une autre chose, c'est que quand tu sors de prison aux États-Unis, essaye d'en trouver une job, de te réintégrer. Oui, tu vas pouvoir travailler dans un meat packer quelque part à la frontière avec le Mexique. Oui. Mais à part de ça, essaye de trouver une job.
En terminant, pour répondre à ta question, c'est intervention policière excessive.
Bon, ben merci. C'est pas un terme facile, hein?
Non, on va trouver.
OK, merci. Merci beaucoup.
On vous retrouve demain, 9h06.